Bonjour à toutes et à tous, Jérôme Bernard pour ce journal d'ONU Info. Au menu, une responsable de l'ONU a prévenu hier le Conseil de sécurité que la situation sécuritaire au Sahel continue de se détériorer. Le nombre de victimes de mines et d'engins explosifs à travers le monde est resté élevé l'an dernier selon le rapport d'une ONG. À Dakar, une conférence a discuté comment intégrer les objectifs de développement durable dans les politiques d'infrastructures urbaines. Et en dossier, un expert d'une société spécialisée dans l'intelligence artificielle explique comment sa société a développé une technologie pour lutter contre la pêche illicite. Le Conseil de sécurité a discuté hier de la situation au Sahel. Devant les 15, la sous-secrétaire générale des Nations Unies pour l'Afrique, Bentou Keita, a indiqué que la violence des groupes terroristes s'étend désormais jusqu'au pays de la côte ouest africaine et le long de la bande sahélo-sahélienne et dans le bassin du lac Tchad. Une situation qui fait craindre un effondrement de la digue sécuritaire dans la région. Bentou Keita.
Au cours des 6 derniers mois, la situation sécuritaire au Sahel a continué de se détériorer. Les attaques attribuées ou revendiquées par les groupes terroristes contre les forces de sécurité et les populations civiles se sont multipliées. De même que les incidents violents opposant les membres de diverses communautés. Le 6 novembre dernier, à Bongo, dans le nord-est du Burkina Faso, une quarantaine de civils et de soldats ont ainsi été tués lors d'une attaque attribuée à des groupes terroristes. Au cours des 10 derniers jours, ce sont près d'une centaine d'éléments des forces de sécurité du Burkina Faso, du Mali et du Niger qui ont perdu la vie dans une série d'attaques visant principalement le triangle du Liptako-Gourma. Ce 18 novembre, 24 soldats des forces armées maliennes ont péri lors d'une opération antiterroriste près de Tabankor, au nord du Mali, à proximité de la frontière nigérienne. Au total, depuis le début de cette année, les incidents sécuritaires ont triplé dans la région en comparaison de l'année précédente, en particulier au Burkina Faso et au Niger. Au Burkina Faso, 489 incidents ont été enregistrés cette année contre 151 l'année dernière. Au Niger, 218 incidents ont eu lieu contre 69 à la même période il y a un an.
Chaque heure, les engins antipersonnels improvisés font une nouvelle victime dans le monde, selon le rapport 2019 de l'Observatoire des mines publié aujourd'hui à Genève. Selon le document de l'ONG, près de 6897 victimes de mines et de restes explosifs de guerre ont été recensées dans le monde, principalement dans les pays connaissant un conflit armé ou une situation de violence. Marion Lodo, experte à l'Observatoire des mines, explique les efforts menés pour lutter contre les mines en Syrie.
La Syrie était le troisième principal recipient de Support for Mine Action en 2018. Donc en fait, ce qui est important de garder en tête, c'est que quand on parle que c'est la Syrie qui reçoit, ça ne va pas spécifiquement au gouvernement, mais ça va donc à des partenaires qui mettent en œuvre des activités dans le cadre de projets d'action contre les mines pour la Syrie. Enfin, pas pour le gouvernement, mais c'est qui travaille en fait sur cette zone-là. Ensuite, la Syrie aussi, ça a été un des pays qui a le plus reçu d'assistance aux victimes. Ça fait partie d'un des pays qui a beaucoup bénéficié donc, de l'augmentation de l'assistance aux victimes en termes de financement. Et ce qu'on a vu, c'est que ça s'est passé beaucoup dans des cadres de projets d'urgence, en fait, dans le cadre du conflit syrien. Donc, en fait, c'est comme ça qu'on sait que ça a été mis en œuvre, en fait, par des partenaires sur place.
Intégrer les objectifs de développement durable dans la gouvernance urbaine, c'était le thème de la conférence organisée cette semaine à Dakar par l'Institut africain de développement économique et de planification, un organe de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Lors de cette conférence, Oumar Ba, le directeur général du cadre de vie au ministère sénégalais de l'urbanisme, a reconnu l'absence d'intégration de la mobilité dans la conception des politiques d'infrastructures urbaines. On écoute Oumar Ba.
Il faut l'avouer. Nous avons un problème de conception de certaines politiques publiques, notamment celle des mobilités. Nous réfléchissons plutôt infrastructure et pas mobilité de manière générale. Hier, j'en parlais tout à l'heure avec mon ami Mandiaï, parlant de nos collègues des infrastructures, ils les appellent les routiers. On a fait beaucoup de routes, mais par là même, on crée des ruptures urbaines. Vous avez deux quartiers là, à Dakar, très proches, Ouest Foire, Nord Foire. Quand vous faites passer cette autoroute-là, vous créez deux quartiers complètement isolés. Quand vous faites passer la VDN, vous créez deux territoires complètement isolés. Complètement, vraiment. Là où, à distance, à pied, on est à même moins de 50 mètres, il vous faut parfois faire un détour extraordinaire. Et ça, tout à l'heure, avec l'interpellation pour les personnes à mobilité réduite, c'est carrément impossible. Parce que ça ne se traverse pas, et cette passerelle-là, qui est d'une mocheté extraordinaire pour le coup, ça ne passe pas. Ça, c'est un vrai problème.
La pêche illicite a des répercussions négatives sur les moyens d'existence de millions de personnes. Elle coûterait environ 23 milliards de dollars en pertes annuelles. Pour contrer ce phénomène, Badr Idrissi et ses partenaires ont fondé Atlan Space, une start-up qui développe de l'intelligence artificielle pour lutter contre la pêche illicite et protéger l'environnement. Monsieur Idrissi est intervenu lors du Symposium international sur la durabilité des pêches, organisé par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, l'occasion pour Anis Autin de lui tendre son micro.
L'aventure Atlan Space a commencé en 2015, juste après la signature de l'accord de Paris sur le changement de climat et l'annonce du Maroc qui était organisateur de la COP22. Younes Moumen, qui est cofondateur et CTO, et moi-même, nous avons eu une petite discussion autour de quel est l'héritage qu'on est en train de laisser à nos enfants. Et on était choqués de savoir que plus de 20% des pêcheries dans le monde sont illégales. Et ça nous a choqués parce qu'on vient du Maroc, qui est un pays côtier, dont la pêche représente une tranche majeure de l'économie, mais aussi pour la société et les emplois. On a décidé d'agir. On vient tous les deux d'un environnement technologique. Younes s'est développé des algorithmes et du software, moi je sais en vendre, de par notre expérience. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé de l'intelligence artificielle qui permet aux avions sans pilote, les grands drones, ce qu'on appelle des voilures fixes, à être totalement autonomes, ne plus avoir besoin d'un pilote humain pour les piloter et pouvoir surveiller de très larges zones géographiques.
Alors des drones pour détecter les activités de pêche illégales, mais aussi la pollution de l'océan et les éventuels déversements d'huile. Concrètement, comment ça marche ?
Cette intelligence artificielle, elle fait principalement trois choses. La première, c'est ce qu'on appelle autonomous navigation, c'est la navigation autonome. C'est-à-dire qu'on injecte les informations relatives à la météorologie, relatives aux courants marins, relative à l'historique des pêches dans une zone spécifique. Et automatiquement, l'intelligence artificielle calcule ce qu'on appelle des zones d'intérêt de pêche, c'est-à-dire les zones les plus propices où il pourrait y avoir des activités de pêche. Et donc, l'intelligence artificielle calcule automatiquement le chemin le plus optimisé pour parcourir le plus de zones possibles. Après, il y a le cognitive vision, c'est-à-dire que le drone commence à voler, commence à prendre des photos de l'horizon et comprend ce qu'il est en train de voir. Une fois qu'il va détecter une anomalie au niveau de l'horizon, un point au niveau de l'horizon qui n'est pas de l'eau, donc le drone va dévier automatiquement de son parcours pour aller identifier c'est quoi ce point-là.
Donc une fois que vous détectez cette anomalie, qu'est-ce qui se passe ?
Donc une fois qu'on détecte l'anomalie, on commence la procédure d'identification de l'anomalie. Le drone dévie de son parcours et commence à prendre des photos de l'objet lui-même. Est-ce que c'est juste un rocher ou c'est un bateau ? Si c'est un bateau, est-ce que c'est un pétrolier ou un bateau de pêche ? Si c'est un bateau de pêche, on commence la procédure pour l'identification de est-ce que c'est une procédure légale ou illégale. C'est-à-dire, on va détecter les signaux radio qui sont transmis par le bateau et voir est-ce que déjà il est en train de transmettre un signal. S'il est en train de transmettre le signal, on va identifier ce signal par rapport à l'identifiant qui est marqué sur le bateau, s'il est lisible, avec le drapeau même du bateau. Donc, on fait ce qu'on appelle un scoring pour arriver à un pourcentage défini avec les autorités du pays.
Quels sont les avantages à utiliser des drones pour surveiller les activités de pêche illégale et notamment au niveau durabilité ?
Il faut savoir que le coût d'utilisation de drones pour la surveillance est beaucoup moins cher que l'utilisation d'avions légers ou l'utilisation d'autres moyens de surveillance, les satellites ou les vaisseaux de garde-côte. Par exemple, sur la partie avion léger, on est sur des ratios de 1 sur 9. On est 9 fois moins cher que la surveillance par avion léger.
En quoi les partenariats sont cruciaux pour la réussite de cette technologie ?
Il faut savoir qu'on est une start-up qui vient d'Afrique. On est plus, entre parenthèses, des geeks qui développent de l'informatique. Et donc, on se base sur des partenariats pour mieux comprendre le contexte local de chaque pays, de chaque région, par rapport à la pêche illégale. Et par exemple, ayant des dizaines d'années d'expérience.
Est-ce que le recours aux drones pour lutter contre les activités de pêche illégale est quelque chose de généralisé ?
Le recours aux drones pour combattre la pêche illégale n'est pas généralisé pour une simple raison. C'est qu'aujourd'hui, les drones, ce qu'on appelle nous traditionnels, ont beaucoup de limitations. La première limitation, c'est l'aspect humain. Il faut un pilote pour pouvoir piloter ces drones, chose qui n'est pas facile à trouver en pays en voie de développement. Le deuxième point, c'est la limitation des moyens de communication. Il faut savoir qu'un drone, ce qu'on appelle traditionnel, a un rayon d'action de maximum de 90 km. Il ne va pas couvrir toute la zone économique exclusive qui est sous autorité d'un pays, qui est à 350 km. Et en plus, ces moyens de communication pour arriver à 90 km coûtent très cher. C'est des drones qui coûtent aux alentours de 1 million de dollars.
Voilà, fin de ce journal de Nuit Info. Retrouvez sur notre page internet et nos comptes Twitter et Facebook. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.